très sauvés, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, qui va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la Fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. On aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup ça veut dire qu'avant c'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait se redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi ? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur ?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir ?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Et il faut que les deux marchent main dans la main. Et il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision ?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous ?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine dans Carnet de santé, gardez vos distances. Les experts préconisent la distance sociale afin de réduire la transmission du nouveau coronavirus. Ensuite, symptômes similaires mais maladies différentes. Un regard sur le Covid-19 et la grippe saisonnière. De plus, comment l'épidémie du coronavirus affecte-t-elle votre vie quotidienne? Nous avons vos réponses. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. Ne vous serrez pas la main, pas d'accolade, de plus, évitez de sortir et observez la distance sociale. Ce sont quelques instructions des experts qui travaillent sans relâche afin de diminuer la propagation du nouveau coronavirus dans le monde. Des gouvernements tels que l'Italie ont imposé des mesures drastiques de confinement pour contrer le Covid-19. Les cas de virus ont dépassé les 200 000 sur le plan mondial et la pneumonie virale a tué au-delà de 2 000 personnes dans le monde. 82 000 autres se sont rétablies. En quoi consiste la distance sociale et pourquoi est-elle si critique durant cette pandémie? Jetons un coup d'œil.
Le nouveau coronavirus chasse le public des grands événements sportifs comme le tournoi de basket interuniversitaire ici aux États-Unis. Il empêche aussi les fidèles de se rassembler pour prier. Tout ceci dans le but de stopper la propagation du virus avec l'application de ce concept de distance de sécurité.
La distance de sécurité fait référence à un ensemble de mesures de santé publique qui sont prises pour réduire le taux de transmission d'une maladie. Elle est mise en œuvre une fois que les responsables de la santé publique reconnaissent que la maladie va se propager. La maladie est là, oui, mais il y a des mesures que nous pouvons prendre pour réduire la vitesse à laquelle elle se propage. Et c'est important parce que si nous pouvions étaler le nombre d'infections au fil du temps, cela réduirait la pression sur le système de santé et éviterait la surcharge de tous les hôpitaux en même temps.
Beaucoup sont obligés de travailler de la maison ou encouragés par leurs employeurs à le faire. Mais pour ceux qui doivent se retrouver autour d'une table, par exemple, les réunions ne sont plus ce qu'elles étaient avant.
La distance de sécurité, c'est tout ce qui est intervention non pharmaceutique, n'impliquant pas de médicaments. Mais il s'agit plutôt de mesures que tout le monde peut prendre. Par exemple, éviter les rassemblements de masse, ne pas aller à des grands événements, prendre certaines actions nous-mêmes en tant qu'individu. Il y a aussi le fait que le gouvernement ou des sociétés et des entreprises privées imposent certaines restrictions, comme l'annulation de rassemblement, le passage au télétravail ou la fermeture des écoles. Ce sont là quelques exemples.
Pour le professeur Wen de Georgetown University, la distance de sécurité est certes difficile, mais nécessaire, surtout en l'absence de traitement.
La distance de sécurité est une intervention de santé publique éprouvée, en particulier lorsqu'il n'y a pas d'intervention pharmaceutique, lorsque vous n'avez pas de vaccin que les gens peuvent prendre pour prévenir une maladie.
Pour vaincre la maladie, la population doit faire des sacrifices consistant essentiellement à limiter les déplacements et à éviter les rassemblements. Les experts sont d'avis que c'est le seul moyen d'inverser la tendance.
Le Nigeria a quelques cas confirmés du nouveau coronavirus jusqu'à présent, mais les autorités sanitaires demandent déjà aux populations d'ajuster leur comportement pour empêcher au virus de se propager. Les églises, les banques et d'autres institutions sont en première ligne pour opérer des changements, comme le rapporte Timothée Obiezu d'Abuja.
Dans de nombreuses églises à Lagos, la capitale du Nigeria, les fidèles sont maintenant examinés à l'entrée et reçoivent des gants, des désinfectants et des masques avant d'assister au service. Les autorités ecclésiastiques disent que ces mesures sont devenues nécessaires après que le ministère nigérian de la Santé a confirmé le premier cas de COVID-19 dans le pays le 28 février.
Le but de l'Église est d'éclairer les gens, d'aider les gens à accomplir leur destin, et cela inclut d'aider les gens à ne pas être vulnérables aux épidémies. C'est pourquoi il est important que les Églises éduquent les gens sur la question du nouveau coronavirus.
Le pasteur qui a fondé cette église pentecôtiste à Abuja dit qu'il élimine les pratiques telles que le partage des tasses de communion ou l'imposition des mains pendant les prières.
Les choses spirituelles ne sont pas des choses charnelles. Donc si le Seigneur dit expressément de mettre la main sur quelqu'un, pourquoi pas? Mais si le Seigneur ne l'a pas dit, en fait, la Bible ne dit pas de mettre la main soudainement sur quiconque.
D'autres institutions où les gens se rassemblent, comme les banques, les écoles et les hôtels, adoptent également ces précautions. À l'entrée de cette banque, la température de chaque client est vérifiée et ils utilisent un désinfectant pour les mains.
Nous avons toutes ces communications avant même que le virus ne soit confirmé au Nigeria. Ils nous ont envoyé beaucoup d'informations sur la façon de l'empêcher parce que chaque jour, nous avons toutes sortes de gens qui entrent dans la banque.
En Afrique, le taux de propagation du nouveau coronavirus reste relativement faible, bien que des cas aient été enregistrés dans au moins 30 pays, dont le Nigeria. Jusqu'à présent, le Nigeria n'a vu aucun décès dû au virus. Les autorités espèrent qu'avec la collaboration des Nigérians sur les mesures préventives, cela restera le cas.
Dois-je porter un masque pour me protéger? Voici la réponse de l'Organisation mondiale de la santé. Portez un masque uniquement si vous êtes malade avec des symptômes de COVID-19 ou si vous prenez soin de quelqu'un qui pourrait avoir le COVID-19. Le masque facial jetable ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si vous n'êtes pas malade ou ne soignez pas quelqu'un qui est malade, vous perdez un masque. Il y a une pénurie mondiale de masques, donc l'OMS exhorte les gens à utiliser les masques à bon escient. L'OMS recommande l'utilisation rationnelle des masques médicaux pour éviter le gaspillage inutile de ressources précieuses et une mauvaise utilisation des masques. Les moyens les plus efficaces pour vous protéger et protéger les autres contre le COVID-19 sont de vous nettoyer fréquemment les mains, de couvrir votre toux avec l'avant-bras et de maintenir une distance d'au moins 1 mètre des personnes qui toussent ou éternuent. Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque ? Avant de toucher le masque, se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool, du savon et de l'eau. Prenez le masque et inspectez-le pour détecter des déchirures ou des trous. Trouvez le côté supérieur où se trouve la bande métallique. Assurez-vous que le bon côté du masque est tourné vers l'extérieur. Placez le masque sur votre visage, pincez la bande métallique ou le bord rigide du masque pour qu'il épouse la forme de votre nez. Tirez le bas du masque pour qu'il couvre votre bouche et votre menton. Après utilisation, retirez le masque, retirez les boucles élastiques de derrière les oreilles tout en gardant le masque loin de votre visage et de vos vêtements pour éviter de toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque. Jetez le masque dans un bac fermé immédiatement après utilisation. Procédez à l'hygiène des mains après avoir touché ou jeté le masque. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool. ou s'il est visiblement sale, lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
La fièvre, les frissons et les courbatures sont des symptômes de la grippe et du coronavirus. Mais comment faire la différence entre les deux? Le docteur Abdulmoumine Saad, épidémiologiste et médecin préventif, a quelques réponses.
Some symptoms of the flu and symptoms of the COVID-19 are somewhat similar.
Les symptômes de la grippe et ceux du COVID-19 sont un peu similaires. Vous avez de la fièvre, une toux, une faiblesse et une fatigue dans les deux maladies.
But what we tend to see more in COVID-19.
Mais ce que nous avons plus dans le COVID-19, c'est un essoufflement, ce qu'on ne constate pas dans une grippe. Mais ça ne veut pas dire que ces symptômes ne peuvent pas apparaître dans une grippe, et ce n'est pas très commun. Le COVID-19, comme vous le savez, est causé par le nouveau coronavirus, et la grippe est causée par le virus de la grippe. Le contact avec le coronavirus est aussi important. Un individu peut avoir eu un contact avec une personne contaminée ou suspectée d'être contaminée par le COVID-19. Quant à la grippe, elle est saisonnière. Ça commence généralement autour du mois de novembre, décembre, et ça connaît un pic en février et en mars. Vers la fin du mois d'avril, on n'en voit pas beaucoup. Pour le COVID-19, nous savons que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin ni de traitement.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur l'épidémie du nouveau coronavirus, retrouvez la VOA sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À très bientôt.
Prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.